Bonne nouvelle, il y a de plus en plus de sports féminins diffusés à la télévision, 50% en plus d'après une étude présentée la semaine dernière par l'Arcom. Mauvaise nouvelle, ces résultats sont en fait désastreux car c'est moins de 5%, 4,8% des sports diffusés à la télé qui sont des compétitions féminines, 16 fois moins que le sport masculin. Et sur les plateaux des émissions radio ou télé, c'est pas beaucoup plus glorieux, à peine 20% de femmes, une sur 5, là où dans les programmes d'info, on atteint presque la parité. Cette semaine, avec l'opération Sport féminin toujours, le sport féminin est donc mis à l'honneur sur tous les médias, dont Europe 1, mais au-delà de cette opération, où en sommes-nous vraiment? La télé serait-elle le cancre de la parité en matière sportive? Bonjour Candice Roland.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la seule femme à commenter des matchs de foot à la télé. Vous faites massacrer les oreilles par votre confrère Yoann Rioux sur la chaîne L'Équipe.
Pas que les oreilles.
Ah bon, il vous écrase les pieds aussi?
Les pieds, il me bouscule un petit peu, on danse, voilà, on s'amuse.
On vous voit se bousculer, mais vous êtes filmé en plan américain, donc on voit pas ce qui se passe en dessous. Mejdaline Miri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes des journalistes, rédactrice en chef du journal Les Sportives et vous avez fondé l'association des femmes journalistes de sport. Je montre ce magazine Les Sportives avec Marion Rousse. Ancienne championne cycliste et consultante vélo, maintenant en couverture. Marie-Alicia Hay, bonjour.
Bonjour.
On vous avait déjà entendu dans Culture Média. Vous êtes rugbywoman, ancienne capitaine de l'équipe de France de rugby, consultante désormais sur Canal, et vous commentez les matchs du top 14. Je vais commencer avec vous, Mejdaline Miri. Moins de 5% des compétitions sportives diffusées à la télé sont féminines. Le plus cruel, c'est que ça a progressé de 50%. Vous dites que c'est en progrès. Ou ce sont là des résultats inacceptables, il faut revoir la copie.
Non, je penche plutôt pour la deuxième solution, vous l'avez peut-être compris. Non, c'est absolument catastrophique, ridicule. Franchement, quand on regarde dans le détail, moins de 5%, ça fait plus de 2000 heures en 2021 pour 36 000 heures du sport masculin. Enfin, quand on a ces chiffres-là, franchement, on peut être que... Alors pas désespéré, parce qu'il faut continuer à se battre pour qu'en fait les sportives soient respectées, parce que pour suivre les athlètes au quotidien, on voit bien qu'elles s'entraînent tout aussi dur, parfois même plus dur, parce qu'elles doivent conjuguer un travail à côté dans certaines disciplines. Donc véritablement ces chiffres sont assez catastrophiques. Ouais.
Alors on va faire le tour des idées reçues qui expliquent ce score. D'abord je me tourne vers vous Candice Roland, la première idée reçue c'est que le sport à la télé c'est un problème de mecs, sauf que c'est pas vrai. Avant on disait le sport c'est pour les mecs.
Ouais, mais non. Ça, c'est sûr que ce n'est pas vrai, que ce soit en termes de sportives et de public aussi. Évidemment que ça touche de plus en plus de femmes devant ou derrière la télé.
Mais devant les mecs, on allait regarder les chiffres d'audience. Par exemple, la finale de la Coupe du Monde. 24 millions de téléspectateurs devant TF1, 81% de part d'audience, 81% de part d'audience générale. Mais sur les femmes responsables des achats, 86%. Ça touche plus les femmes en particulier que la communauté générale. Idem, la dernière finale France-Danemark, les championnats du monde de handball où la France a perdu, 23,6% chez les 4 et plus et 32% chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est-à-dire que ça intéresse davantage les femmes jeunes que les hommes. Donc tout ça pour dire, j'étais obligé d'être long pour bien expliquer ça, que le sport à la télé, ce n'est pas un programme pour les mecs.
Et non, bien sûr que non. Alors surtout quand on parle du handball, alors même si j'avoue que j'ai très mal vécu la finale de dimanche dernier, mais oui, bien sûr que le sport intéresse les femmes. En fait, je trouve ça incroyable d'avoir à répéter ça en 2023. Je me dis, mais on en est encore là d'avoir à dire ça. Alors, je sais que l'histoire du sport est profondément masculine, mais quand même.
Pardonnez-moi, c'est très pointu comme analyse. L'analyse entre les spectateurs généraux et les spectateurs des femmes, c'est quelque chose de neuf. On s'en doutait pas encore il y a quelques années.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis, alors moi, je suis de la génération 98. J'ai grandi avec le sacre des Bleus. J'avais 9 ans à ce moment-là. En fait, ça me paraît tellement évident que les femmes aiment le sport que, si vous voulez, ces chiffres, évidemment, que vous venez de citer l'attestent. Mais voilà, autour de moi, je vois bien à quel point est-ce que c'est partagé.
Alors, voilà pour le sport. Maintenant, le sport féminin. Deuxième idée reçue, vous allez dire s'il y a des clichés vrais et puis il y a des clichés faux. Mejdaline Miri, vous nous dites, on dit que les chaînes diffusent peu de sport féminin car les filles qui font du sport intéressent peu les téléspectateurs.
Je crois pas. Je crois que quand on met les caméras, je crois que quand on diffuse correctement un événement sportif, ça suit derrière. Pour preuve, le Tour de France au féminin qui est revenu l'été dernier a fait 2,2 millions de téléspectateurs par jour.
Oui, mais il faut comparer au Tour masculin.
Oui, mais alors, ils n'en sont pas exactement au même niveau, en fait, ces événements. Il y en a un qui dure une semaine et l'autre 3 semaines.
Mais je ne suis pas forcément d'accord.
Allez-y.
On compare trop, justement. Parce que ce sont deux événements complètement différents. Il y en a un ancestral qu'on relance aussi, et on fait trop cette comparaison, par exemple la Ligue des champions masculine avec la Ligue des champions féminines en foot, où on compare trop à chaque fois ces sports-là, alors que finalement le sport féminin se développe vraiment que depuis quelques années. Alors ça dépend évidemment des sports, mais il faut avoir en tête que le sport féminin, et il y a encore plein de progrès à faire, et il n'est pas au niveau en termes de médiatisation, en termes effectivement de construction.
Alors,
aussi
parfois c'est fait pareil, mais le chiffre est cruel là, pour le coup. Les deux dernières finales féminines et masculines de Roland-Garros, 2 millions de téléspectateurs pour les femmes, 4,5 millions pour les hommes. Là aussi il y a peut-être une autre raison, c'est qu'on ne sait pas qui sont les joueuses.
C'est ce que j'allais dire, en fait, au bout d'un moment
c'est une question de génération.
Oui, et puis au bout d'un moment, si on ne crée pas assez de reportages, si on ne connaît pas assez effectivement les joueuses, parce qu'on n'a pas vu assez sur elles, évidemment qu'on ne va pas s'attacher aux sportives.
Il y a aussi un autre problème dans le cas du tennis que les autorités ne s'expliquent pas, c'est que le top 10 ou le top 4 ne change quasiment jamais. C'est toujours, bon, il n'y a plus Federer, mais il y a tout le temps Nadal, Djokovic, Tsitsipas, et j'en oublie un ou deux, tandis que les joueuses, ça change tout le temps, tout le temps, tout
mais
le temps.
Mais c'est exactement ça.
La numéro 1, elle était explique. Numéro 28 l'an dernier.
Mais je pense
on sait
que
pas
c'est
qui
ce qui explique la différence d'intérêt sur ces finales-là. Il n'y a pas d'histoire avec une joueuse de tennis en ce moment, comme ça peut l'être avec les garçons. Mais vous revenez à l'époque des Williams, des même avant, hein, Steffi Graf, tout ça, c'était autre chose. Là, en revanche, il y avait de l'intérêt. Et c'est normal, mais parce qu'il faut créer une histoire avec les sportives.
Mais alors, si vous me permettez, juste là-dessus, j'ai l'impression que quand il y a les sœurs Williams, qui gagnait tout à un moment, on se disait elles écrasent le tennis féminin n'est pas hyper intéressant, et maintenant qu'il n'y a plus personne et qu'il y a beaucoup de compétitions, on se dit finalement il nous manque des têtes d'affiche. Donc du coup
il faut un mix des deux, il ne faut pas que ce soit toujours le même qui gagne, mais il ne faut pas non plus que ce soit comme le tiercé où on ne connaît aucun cheval.
Oui, mais pour le coup chez les garçons c'est un peu toujours les mêmes qui gagnent, et pourtant on continue de suivre.
On est bien d'accord. Des bons chiffres, c'est la Coupe du Monde de rugby féminin. Ça a attiré le public, Marie-Alicia, et vous avez les chiffres en tête ?
Non, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je sais qu'elle a marché, et je sais qu'elle a marché aussi parce que déjà la dernière, depuis celle de 2014 à Paris, ça a marché justement parce que ce que j'entendais des consoeurs qui sont avec vous, justement on l'a médiatisé, on a montré ce qu'on ne connaissait pas, on a montré des joueuses qu'on ne connaissait pas, on a découvert quelque part le sport, et à partir du moment où on ne connaît pas, on regarde pas forcément, à partir du moment où on connaît, ça donne de l'intérêt. On a autant envie de s'approprier le sport que de s'approprier un petit peu les joueuses et la vie des joueuses. Et du coup, quelque part, on les suit. On crée une histoire, comme on le disait à l'instant dans le tennis. Ça crée une histoire. Et finalement, ces gens-là ont continué à suivre le rugby féminin. Et encore plus à la dernière Coupe du Monde.
Alors, je vais donner les chiffres. Je les ai souvenés, donc je ne fais pas d'effort. La dernière demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, c'était le 5 novembre dernier. 30% de part d'audience, qui est quand même vraiment énorme.
Alors que c'était à 7h du matin, il me semble.
Oui, donc c'est vraiment un bon score. Sauf qu'il y avait une histoire aussi, c'est qu'il y avait des Françaises. Il y a aussi ça joue beaucoup. En tennis, il n'y a pas de Françaises dans le top 10, on ne regarde pas.
Bien sûr, mais après, je ne sais pas si on a les chiffres concernant Caroline Garcia, mais... Mais en tout cas, Caroline Garcia, on peut la suivre ces derniers temps. Et sur le rugby, évidemment, qu'on a suivi. Alors après, c'était pas toujours sur des chaînes, c'était parfois sur France 4, si je dis pas de bêtises. Mais évidemment, quand on met les moyens, je suis persuadée qu'en fait, les gens regardent du sport. C'est ce qu'ils aiment et ils regardent pas si c'est des femmes ou des hommes.
Oui, alors.
Oui, allez-y.
Après, c'était aussi en Nouvelle-Zélande. C'était en Nouvelle-Zélande aussi. Donc la difficulté aussi par rapport à cette retransmission, elle était par rapport aux horaires, évidemment, un peu compliquée. Donc c'était pas le plus simple, en tout cas, pour la mettre en valeur. Mais c'est vrai que le fait que les Françaises aient réussi et rentrent dans les derniers carrés, malgré tout, ça reste encore un petit peu, j'ai envie de dire presque la loi, c'est qu'il faut réussir malgré tout encore pour pouvoir faire parler et pour pouvoir faire partie un petit peu des premières, des unes ou en tout cas des premières infos.
Alors il y a la place des femmes dans le sport à la télévision, et aussi la place des femmes dans les rédactions, et notamment les rédaction de sport, Culture Média continue, à tout de suite.
Philippe Vandel.
On est avec Marie-Alicia et les consultantes rugby sur Canal+. On parle du top 14 et pas seulement. On est avec Mejdaline Miri, fondatrice de l'association des femmes journalistes de sport et rédac chef de ce magazine que je montre, Les Sportives. Vous pouvez voir les images de cet entretien sur Europe1.fr, on est en direct. Et Candice Roland, sur la chaîne L'Équipe, on vous entend, notamment aux côtés de Yoann Rioux, mais pas seulement. C'est le deuxième aspect de notre question, c'est la place des femmes dans les rédactions, sur les plateaux télé, dans les commentaires de compétitions sportives. Là encore, on a l'impression que c'est mieux. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait que Marianne Macaud qui était dans Téléfoot. C'était la seule fille qui parlait de foot. Évidemment, aucune fille ne parlait de Formule 1. Et maintenant, c'est devenu naturel de voir des femmes parler de foot, de rugby, de F1 sur les plateaux. Mais ce sont toutefois rarement elles qui tiennent la boutique, qui ont l'émission.
Ouais, ça dépend. Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de spécialistes hein, sur Canal. Isabelle Duturburu qui gère le rugby, c'est la patronne.
Canal Rugby Club, c'est la patronne. Vanessa Lemoine sur Bein Sport, mais il n'y en a pas beaucoup. Elles sont plutôt consultantes. Je vous le reproche pas. Hein.
Non, bien sûr. Consultant, ça tourne. Regardez, Estelle Denis qui était sur la chaîne il y a encore deux ans.
Et qui faisait l'équipe d'Estelle.
Exactement. Donc, ça tourne un peu. On a France Piron qui gère aussi chez nous des émissions, que ce soit la station L'Équipe. Voilà, vraiment des émissions autour du sport régulièrement. Elle présente aussi Karine Galli qui présente l'équipe de Greg. Ça tourne un petit peu. Donc, ou l'équipe du soir. C'est vraiment. Il n'y a pas d'émission forcément, effectivement, en ce moment présentée par une femme chez nous, mais ça tourne, c'est pas un critère en fait. Voilà, je pense pas qu'on réfléchisse en critère, se dire c'est une femme, on va la mettre là ou on va mettre là. Je pense pas que ce soit la réflexion en tout cas de la direction.
J'aime bien la voix que vous faites, on va la mettre là, et on sent que c'est un problème. À la voix que vous faites, on comprend que c'est un problème.
Ça peut l'être pour certains, ouais, ça peut l'être. Ouais. Non, mais ça peut être pour certains une préoccupation, mais pas forcément à bon escient, je crois.
Mejdaline Miri, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, ces femmes qui présentent des émissions? Quelle est la part des femmes parmi les journalistes sportifs? Quel chiffre avez-vous? Vous n'avez pas les mêmes chiffres?
Je dis que chez nous, on doit être à 20-25% de la rédac à louche. Mais...
Alors en fait, on a commandé une étude scientifique avec l'association Femmes Journalistes de Sport parce qu'on s'est tout de suite dit, quand on parle aux gens, ils nous disent, ça va mieux, il y en a plus. Et en fait, on va divulguer les chiffres dans quelques jours, mais on est autour de 15% de femmes journalistes de sport dans les rédactions, donc 85% d'hommes. Et en fait, il y a un vrai phénomène de surreprésentation en télévision parce qu'il y a notamment les animatrices qu'à un moment ont été beaucoup à l'antenne, maintenant c'est un peu moins le cas. Et les consultantes, en vérité, ce sont des femmes qui doivent leur crédit, leur place à leur carrière sportive, et ce ne sont pas des journalistes. Donc là, je parle vraiment des journalistes à l'antenne. Il y en a peu. À l'inverse, en radio, on est sous-représenté parce qu'on nous refuse le statut de commentatrice.
D'où vient le souci? Je veux dire le sens de ma question. On reprochait qu'il y ait peu de femmes, de filles dans les filières scientifiques. Il y ait peu de filles au lycée qui font des maths. Et tout d'un coup, elles ont le choix de l'option. Et là, le remède a été pire que le mal. Elles sont moins nombreuses que les garçons à choisir maths. Est-ce que ce sont les rédactions qui ne veulent pas de femmes, ou est-ce que ce sont les femmes qui ne veulent pas aller dans des rédactions sportives du travail que vous avez effectué?
Alors, on s'est posé la question très honnêtement, et en fait, on remarque que dès les écoles de journalisme, effectivement, les jeunes filles choisissent un petit peu moins la spécialité sport parce qu'en fait, elles se sentent moins légitimes que le garçon qui joue au foot depuis 10 ans, qui regarde la Ligue 1 tous les dimanches, etc. Et donc, elles disent, est-ce que vraiment je vais y aller? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller dans une rédaction où je vais être en ultra minorité? Il y a plein de choses qui viennent s'ajouter, et donc ce sont les plus déterminées finalement que l'on retrouve. Et nous, par rapport à ça, avec l'association Femmes Journalistes de Sport, on a donc créé un programme dans l'optique de Paris 2024 de donner des cours du soir à 40 jeunes filles sur les deux années scolaires qui restent avant les Jeux. Donc on va former 80 jeunes filles dans les écoles de journalisme pour leur donner confiance sur la question du sport et pour que derrière, elles inondent les rédactions sportives.
Vous le disiez, les femmes qui arrivent souvent dans les rédactions, elles sont d'anciennes joueuses. Exemple avec vous, Marie-Alice Yahé, j'ai raconté, vous avez joué en équipe de France de rugby il y a 15 ans. On n'aurait toutefois pas imaginé qu'une femme puisse commenter un match de rugby. Comment ça s'est passé quand vous avez débarqué sur un plateau avec des grandes gueules, et c'est pas critique ce que je dis là, comme Jean-Baptiste Elissade ou Richard Dourde? Comment ça se passe quand on est une femme, quand bien même vous avez été joueuse internationale?
Alors ça se passe très bien, puisque pour moi ça s'est bien passé, mais au départ on n'est pas forcément très sereine. Tout simplement, au départ je l'ai souvent expliqué, on cherche une forme de légitimité dans le regard des autres. Quand j'abordais une réponse et autres, je cherchais toujours ça. Il m'a fallu en fait passer au-dessus et me rendre compte qu'effectivement j'en avais peut-être autant que ces joueurs-là, parce que si on rebattait les cartes, ma carrière était certainement égale à la leur, et que du coup je pouvais me le permettre. mais au début, c'est vrai que le fait que, ça n'existe pas, on a besoin, on a envie presque de prouver, et du coup, on recherche quand même un petit peu, on a ce manque de confiance, malheureusement, qu'on ne devrait pas, mais qu'on a toujours quand on arrive, parce qu'on a besoin d'exister, on a besoin de prouver, et puis surtout parce qu'on sait que quelque part, on fait un travail aussi pour les autres, peut-être pour la suite, et pour prouver que quelque part, c'est bien aussi, une fille, ça marche aussi.
Ouais, il y a une anecdote absolument formidable, il y a un entraîneur du top 14, c'est le championnat de France de rugby, qui se plaint de vos commentaires et de votre statut. Il va voir votre patron, le patron des sports, avec Bay, le patron du rugby à l'époque, et Bay lui a répondu: le problème, il y a l'entraîneur du top 14, c'est que pour le statut, elle a plus de sélection que toi. Et cela fermait son clapet. Candice Roland, vous êtes la première et la seule femme à commenter du foot à la télé. C'est arrivé comment? Comment vous avez fait pour faire exploser, péter le fameux plafond de verre?
En fait, je suis arrivée à l'équipe il y a un moment maintenant, et j'avais dit voilà, moi j'aimerais commenter. C'était ma volonté, et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut le dire, il faut l'exprimer, tout ça. Donc j'ai commencé par la radio, RTL l'équipe, et puis après quand l'équipe TV à l'époque a commencé à avoir des droits, j'ai dit ben voilà, je suis là si on a des droits. Alors on a commencé par le foot russe, pour vous dire. Et puis voilà, petit à petit, c'est devenu naturel. Et en tout cas, l'équipe...
Il y a une autre dimension à ma question. Ouais. Vous avez changé votre voix?
Complètement.
Racontez.
C'est un exercice déjà qu'on apprend dès l'école de journalisme. Évidemment qu'on ne parle pas à l'antenne comme on parle dans la vie.
Mais surtout redescendre, pas parler aigu. Parce que c'est
un des reproches,
on va le dire, c'est un des reproches qui sont faits, y compris par les femmes, qui n'aiment pas entendre des femmes parce que la voix est trop perchée.
Mais moi la première, c'est pareil. Il y a des voix qui sont plus agréables à entendre que d'autres. Et même des voix masculines, des voix d'hommes, parfois, me sont insupportables. Parce que peut-être ils ont moins cet aspect en tête, justement, d'avoir cette voix.
Attendez, juste pour le plaisir, qui a dit que les mecs n'avaient pas une voix au perché? Petit souvenir.
Dis-nous ce que tu nous feras. Ensemble, nous sommes, ils sont, tous ensemble, les champions du monde de football.
Mais si c'était une fille qui avait fait ça?
Ah non, mais bien sûr que non. Mais c'était un personnage. Eugène Saccomanno avait le droit d'être un personnage. Ouais. On n'a pas encore de personnage féminin qui pourra se permettre ce genre de montée un petit peu aiguë. Voilà. Donc effectivement, d'abord, pour l'instant, il faut convaincre par une voix qui soit agréable et à travailler au moment où c'est chaud, il y a des actions.
Fait comment? Vous avez appris à parler comme ça?
Non. Moi, je n'ai pas une voix grave de base. Donc dès qu'il y a le micro, ma voix, elle change complètement. Et c'est un travail qui prend des années, pour le coup, qui prend des années et qui, voilà, au fur et à mesure, on respire différemment, on a un autre rythme.
Dernière question, oui, non, parce que le temps manque, ce sujet est polysémique, c'est vraiment passionnant. Mejdaline Miri, est-ce que vous seriez pour des quotas dans les salles de rédaction?
Oui, parce qu'en fait, sans les quotas, on voit bien ces dernières années qu'on n'arrive à rien. Sinon, on se retrouve l'année prochaine, et puis encore l'année d'après, et puis encore l'année d'après à Sport Féminin toujours, pour finir par se dire que les choses n'avancent pas. Donc, alors quotas, c'est un mot qui fait peur. Peut-être que objectif chiffré, c'est un mot qui fait moins peur. Mais oui, je crois qu'il y a besoin d'avancer, et y compris sur la question du commentaire. Marie-Alice disait quelque chose de très important. On a besoin de modèles. Et ce que représente Candice aujourd'hui, par exemple, c'est extrêmement important. Les commentaires sportive se compte sur les doigts d'une main aujourd'hui ou peut-être de demain. Franchement, c'est ridicule. Il faut nous laisser beaucoup plus faire ça.
On vous laisse du temps. On était ravis de vous entendre. Marie-Alice Yahé, consultante rugby pour Canal+, Mejdaline Miri, fondatrice de l'association des femmes journalistes de sport, et Candice Roland de la chaîne L'Équipe, qu'on ne présente plus ni la chaîne ni Candice Roland. Merci d'avoir été avec nous, Culture Média.